Le podcast qui fait grandir même les parents.
Un podcast réalisé par les éditions Mango.
Bonjour. Dans la famille complice, la maman, c'est moi. Chaque jour, je m'émerveille devant les progrès de mes enfants.
Je m'appelle Com et j'ai 4 ans et demi.
Je m'appelle Inès et j'ai 7 ans.
Alors je les couvre de baisers. Mais j'ai parfois du mal à les gérer. Je leur ai appris à parler et puis à se taire. Je leur interdis les écrans. Mais je suis moi-même un peu addicte. Je leur parle de respect. Mais je ne cesse de crier pour leur dire d'arrêter de se disputer. Bref. Je suis une mère contradictoire. Face à ce constat, je suis allée voir Anne-Claire Kleindienst, psychologue clinicienne et experte en parentalité positive. J'ai compris que je n'étais pas la seule mère contradictoire, qu'il y en avait beaucoup d'autres, et des pères aussi. J'ai donc eu envie de créer un podcast qui permettrait à tous les parents de suivre ces conseils pertinents et déculpabilisants. Anne-Claire écoute depuis des années les parents et leurs enfants. À travers son approche toujours bienveillante, elle les guide sur le chemin complexe et fascinant de la parentalité. Aujourd'hui, elle vous ouvre les portes de son cabinet. Pour l'interviewer, Anne l'a fait, maman et éditrice d'ouvrages de parentalité positive. Rendez-vous pris chaque semaine pour 15 minutes de conseils et d'échanges passionnants autour des sujets de votre quotidien.
Au fait, dans la famille complice, moi je suis papa et on ne m'a pas présenté. Bon, je voulais juste dire que je suis aussi derrière ce projet de podcast. On ne m'entend pas beaucoup, c'est vrai, mais j'écoute attentivement. Et vous verrez, c'est passionnant.
Bonjour Anne-Claire.
Bonjour Anne, comment ça va?
Ouais. J'ai un peu crevé là.
Aïe aïe aïe, qu'est-ce qui se passe
difficile. Bon, vous savez, c'est toujours pareil avec les enfants. Quand ils sont petits, ils dorment pas.
Ouais.
Donc là, j'en ai un qui veut jamais aller se coucher, ça tourne un peu au cauchemar. Et puis j'en ai une qui se relève la nuit, donc c'est par phase, mais là en ce moment c'est insupportable, c'est infernal. Donc du coup, après la journée de travail, tous les deux on est crevés, on n'a qu'une envie, c'est avoir un temps pour nous tranquille. Et en fait, on passe la soirée à aller coucher l'un et à se réveiller par l'autre après. Et du coup, on est vraiment crevés, quoi.
Mais ouais.
Donc du coup. Le sommeil, s'il vous plaît, aidez-moi.
Ouais, mais c'est vraiment ça, hein. C'est-à-dire que c'est lui qui dort pas, il est tendu, il est fatigué, il perd ses ressources, mais nous aussi, au passage, on dort moins, on n'a pas nos temps de récupération, et donc on est aussi tendu et fatigué. Du coup, ça refait un peu cercle vicieux, puisque du coup, ça se rejoue sur la soirée suivante, et moins on a de ressources, moins on est capable de gérer ça sereinement.
Ouais, c'est complètement ça. Comment on peut faire? On va peut-être commencer par... Comment on peut faire quand on a un enfant qui a du mal à s'endormir? Donc, il y a les rituels, etc. Mais est-ce qu'il y a d'autres... Je sais que c'est bien d'avoir un rituel et elle en a un, mais qu'est-ce que ça veut dire de ne pas réussir à s'endormir et comment on peut faire pour l'aider à s'endormir? Ou est-ce qu'il ne faut pas l'aider du tout, d'ailleurs? Je ne sais pas.
En fait, le comment faire, il est quand même bien sûr appuyé sur les rituels parce que les rituels, les routines font autorité pour l'enfant. Plus on les installe, plus l'enfant peut s'appuyer dessus, plus c'est prévisible et moins c'est un sujet du quotidien. Donc quand même, vraiment, c'est bien quand même de se le redire, même si ça paraît une évidence.
Quoi une routine exactement ?
Une routine, c'est quelque chose qu'on réplique, qu'on répète, sur lequel on s'entraîne. C'est des rouages, c'est des enchaînements de... Voilà. Et là-dessus, on peut travailler avec les enfants aussi sur qu'est-ce qui se passe après telle chose, on passe à telle autre chose, puis telle autre chose, de façon à ce que l'enfant se repère aussi par rapport à cette chronologie des choses qui s'enchaînent. Ensuite, on peut peut-être se dire aussi que, quelquefois, on se met certaines obligations le soir, parce que la principale difficulté du soir, c'est que c'est si court pour la plupart, hein, à part ceux qui ont la chance vraiment de commencer à dérouler tout ça à 4h30 l'après-midi. Mais pour beaucoup, c'est quand même beaucoup plus tard. Et pour autant, il ne s'agit pas de se coucher, se mettre au lit trop tard et de s'endormir trop tard. Donc, c'est vraiment travailler cette histoire de simplification. C'est-à-dire que peut-être il y a aussi des choses... On peut sortir un peu de la boîte, regarder ce qui se passe et voir si ce qu'on fait depuis parfois des années, on ne peut pas le simplifier.
Je sais pas. C'est vrai que parfois, quand on a tellement envie de, qui s'endorme enfin, du coup, on va... et que lui, il veut pas ou elle veut pas, on va multiplier les petites choses qu'on fait en espérant qu'au bout du compte, ça va marcher.
Oui, mais même en amont, hein, pour gagner du temps avant le vrai temps du décrescendo, du coucher et de l'endormissement, toutes ces histoires de repas, des histoires de devoirs, des histoires de bains ou de douches qui quelquefois sont... voilà, où on se met un petit peu plus de pression que ce qu'il faudrait. Il y a peut-être parfois des choses à simplifier. Je n'ai aucune leçon à donner à qui que ce soit. Mais bon, parfois, une petite douche rapide au lieu d'un grand bain, à moins qu'au contraire, le bain serve vraiment à détendre. Hein. Peut-être un bain un jour sur deux au lieu d'un bain tous les jours. Enfin, voilà, il y a des questions à se reposer. Peut-être parfois des devoirs qu'on peut simplifier aussi en semaine avec la complicité de l'enseignant plutôt que coûte, s'arc-bouter pendant une heure et demie. Voilà. De façon à ce que vraiment le dernier temps, qui est celui du décrescendo du soir, soit particulièrement soigné, en fait.
Il faut d'abord nous aussi nous détendre et nous calmer pour pouvoir faire en sorte que ça se passe bien après derrière.
Oui, c'est-à-dire que nous aussi, pour pouvoir conduire un décrescendo, on a aussi besoin d'être dans notre décrescendo, même si quand on couche notre enfant, nous, on n'a pas forcément envie de se coucher à ce moment-là. Donc, on va faire un décrescendo pour lui pour pouvoir ensuite avoir un temps pour soi. Mais que du coup la qualité de ce moment, c'est aussi on peut le faire avec ce qu'on a comme conscience de l'état dans lequel on est, et c'est là que quelquefois d'être deux, quand on peut être deux, c'est plus facile aussi, parce qu'on va pouvoir soit s'alterner, soit se partager les rôles selon qu'on a un ou plusieurs enfants. Mais travailler
est-ce que l'enfant il est capable de comprendre que y a un besoin pour son parent, ses parents, de se retrouver. Et est-ce que aussi ça peut l'apaiser de se dire, il y a le temps des enfants, le temps des parents le soir, parce que là aussi on pose un cadre qui est le nôtre et ça peut peut-être aider à ce que tout le monde soit plus serein aussi.
Alors ça peut l'aider dans le sens où il sait à quoi s'attendre et il sent cette fermeté des limites de ce sur quoi, jusqu'où il peut aller. Et en même temps, s'il est très très inquiet, s'il est très très anxieux, ça ne va pas forcément être suffisant. C'est-à-dire qu'il va vraiment avoir besoin d'être accompagné, soutenu, étayé, contenu, avant de pouvoir être laissé. Mais une fois qu'on a fait tout ça, en tant que parent, on peut aussi se dire... On a passé toutes ces étapes et ensuite, on peut vraiment être ferme et déterminé en lui disant maintenant, c'est à toi de jouer.
Je couche.
Oui, j'ai quand même envie de dire, pas oublier dans ce temps du décrescendo toutes les choses un peu sensorielles qu'on peut utiliser, parce qu'on pense souvent à la petite histoire du soir, qui était évidemment quelque chose qui prépare les rêves, l'imaginaire, ainsi de suite. Mais on peut aussi jouer un peu de ces questions sensorielles, olfactives. On peut mettre dans les rituels une petite huile essentielle qu'on va sentir, une bougie qu'on regarde et sur laquelle on souffle, un doudou qu'on caresse et qu'on met sur son ventre. Et on va apprendre une respiration en gonflant son abdomen et en baissant son abdomen, et ça va bercer le doudou. Il y a des
maintenant vraiment comme ça, toute une panoplie pour bien
absolument. Et il y a notamment un ouvrage de relaxation et de séquences comme ça pour les enfants en lien avec la respiration, qui est très très bien fait, qu'on peut donner en référence aussi, qui peut donner de l'inspiration aux parents.
Oui, on laissera ça dans les références du podcast. Donc, je disais, c'est nous aussi, quand soudain, patata, crie traverse la nuit, ou des petits pas arrivent jusqu'à notre chambre. Donc là, il se réveille la nuit et il pleure dans son lit, ou il vient nous voir. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là?
Alors, c'est vrai que là aussi, entre les petits pas où il vient nous voir et il hurle dans son lit, c'est pas forcément la même chose. Et même quand il hurle dans son lit, ça peut être une terreur nocturne qui n'est pas tout à fait pareil qu'un cauchemar.
Quoi la différence?
Alors, la terreur nocturne, c'est vraiment un trouble du sommeil qu'on trouve dans les premières années de vie, qui a tendance à disparaître quand même après.
D'accord.
Qui est vraiment le temps que le sommeil se mette en place avec les différentes phases de sommeil.
D'accord.
Et on va voir l'enfant hurler, être absolument terrifié, mais il est inconsolable parce qu'on ne peut pas le réveiller et le ramener à la réalité. Il est vraiment dans cette espèce de moment où il est inaccessible à toute forme de consolation. Donc là,
il dort vraiment, en fait. C'est un peu comme un somnambule.
Oui,
tout à fait. Un petit peu second.
Absolument. Et donc, c'est vrai que c'est très désarmant pour les parents. Ça a un côté même un peu effrayant parce qu'on ne peut pas faire grand-chose, si ce n'est d'être là et quand même de contenir jusqu'au moment où ça passe. Et de le savoir, ça va faire qu'on va être aussi un peu moins inquiet en tant que parent, donc on pourra mieux gérer. Le cauchemar, c'est différent. Le cauchemar, c'est un rêve désagréable. C'est un moment du sommeil paradoxal où l'enfant revit sa journée. Alors, les enfants plus sensibles, qui captent plus de choses, vont revivre des choses plus fortes la nuit parce que le traitement de l'information est plus intense et ça chahute un peu, voilà, ça secoue au cocotier. Mais voilà, on peut là, à ce moment-là, effectivement... venir apaiser le cauchemar, donner un petit verre d'eau. Et l'idée, ça va être que pour un enfant qui aura tendance du coup à développer un sommeil un peu agité, à se réveiller un peu la nuit, de pouvoir lui montrer progressivement en fonction de son âge. Au début, on l'aide beaucoup parce qu'il est petit.
Ouais.
Et au fur et à mesure qu'on traite ça, de lui montrer comment il peut s'en occuper par lui-même.
D'accord, donc en fait, il se réveille, mais il ne vient pas nous réveiller.
Bah, c'est l'idée, c'est que comme on est toujours dans l'idée de développer son autonomie, il va développer son autonomie aussi en pouvant allumer sa petite lumière toute douce, parce que ce n'est pas le but de se réveiller complètement, de lire un petit livre, et de lui montrer qu'il peut, et qu'il vient vraiment, qu'il ne vienne nous chercher que quand c'est vraiment archi...
important, quoi.
Voilà, incontournable.
Dans le cas où il vient justement dans notre chambre, j'en ai un peu discuté, les avis sont hyper partagés. Donc en fait, est-ce qu'on le raccompagne dans son lit? Est-ce qu'on le garde dans notre lit, sachant qu'il est 4h du matin et qu'on a très très sommeil? Comment faire dans ces cas-là?
Ah ouais, ça c'est le grand sujet. Alors personnellement, j'ai une position qui est un petit peu en décalage par rapport à celle d'une majorité de psychologues. Qui disent qu'il ne faut pas que l'enfant dorme dans le lit de ses parents. Bien entendu, ce n'est pas une fin en soi. Mais je pense que pour un certain nombre de situations d'enfants qui sont anxieux, le lit peut être vraiment un espace... Enfin, voilà, c'est l'espace rassurant par excellence. C'est le lieu où les parents sont là. Et pour l'enfant, c'est super important. Et l'idée, c'est qu'il puisse grandir. Donc, si à un moment donné, il est freiné dans son développement, dans sa sérénité, dans la construction de lui, parce qu'il est très inquiet... Pourquoi ne pas saisir des moments aussi de se récupérer? Le but du jeu, enfin, je veux dire, moi, j'ai pas vu d'enfant qui a envie à 18 ou 20 ans de dormir dans le lit de ses parents.
Ouais.
Donc, on peut gager que son objectif à lui, c'est de s'élancer dans la vie. Et si, en lui donnant des petits moments comme ça de récupération, aussi pour que lui récupère son sommeil que nous, on récupère aussi. Voilà, donc bien sûr, c'est mieux de le raccompagner dans sa chambre, dans le principe, mais
le
on
rassurer,
peut aussi
le
s'accorder. On peut aussi s'accorder des exceptions.
C'est une exception, ou alors là, je sens que t'as vraiment peur, donc viens un petit peu et après on ira dans ta chambre.
C'est vraiment de dire, c'est pour le moment, c'est pour de lui dire t'en as besoin tout de suite, donc on le fait, mais c'est une situation transitoire, le temps que t'en as besoin et pas plus que le temps. Voilà, on fait confiance dans le fait que si tu fais ça, c'est que tu en as besoin, mais c'est pas une fin en soi. Dans l'idée que, quand même, peut-être on peut conclure avec ça, on a vitalement besoin du sommeil. Il est absolument nécessaire pour toutes les facettes de notre vie, à commencer par la dimension vraiment vitale, physiologique, sans parler de notre développement cognitif et notre stabilité émotionnelle. Donc, le plus notre enfant dort et le plus on peut dormir aussi, le mieux c'est.
Pour vous aider à préparer vos enfants au sommeil, je vous conseille Rituel du soir pour les tout-petits, 30 histoires, jeux et berceuses pour endormir son enfant pour les 0-3 ans, aux éditions Mango. Et pour les 4-10 ans, Petit Rituel Zen, 30 histoires relaxantes pour s'endormir en douceur, également aux éditions Mango.
Merci de votre écoute. J'espère que ce podcast vous a plu. Vous pourrez découvrir toutes les références sur la page web du podcast Famille Complice. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode. Nous avons besoin de votre aide pour faire connaître ce podcast et aider d'autres parents sur le chemin de la parentalité positive. Alors n'hésitez pas à en parler et à déposer des notes et commentaires. Pour vous remercier, chaque semaine, nous offrons un exemplaire du livre « Petit décodeur illustré de l'enfant en crise » d'Anne-Claire Kleindienst, Linda Coraza, par tirage au sort, parmi les participants. Merci beaucoup. Vous avez écouté Famille Complice, le podcast qui fait grandir même les parents. Imaginé et réalisé par les éditions Mango. Produit par Georges et Madeleine.